Après l'invasion prussienne, il n'y a plus de malheur possible. Ce fut le fond de l'abîme, le dernier degré de la rage et du désespoir. Gustave Flaubert. Mille ans d'histoire. Parce qu'elle est à l'origine de la chute du Second Empire, de la proclamation de la Troisième République, de l'unité allemande, de la Commune de Paris, de la perte par la France de l'Alsace et de la Lorraine, et d'un contentieux franco-allemand qui allait durer jusqu'en 1945, rarement une guerre n'a eu autant de conséquences que celle que Napoléon III déclarait à la Prusse le 19 juillet 1870. Sûr de la victoire de son armée, il n'imaginait pas ce jour-là que, 6 semaines plus tard, il serait fait prisonnier par les Allemands à Sedan et que son empire serait renversé par une révolution parisienne. « Nous sommes archiprêts, il ne manque pas un bouton de guêtre », lui avait affirmé son ministre de la guerre, le général Leboeuf. Et c'est pourquoi ce 19 juillet 1870, Napoléon III était persuadé que son armée serait à Berlin avant la fin de l'été.
Voici le communiqué officiel. Aujourd'hui, 19 juillet 1870, à 11h du matin, Sa Majesté impériale a fait remettre au roi de Prusse, Guillaume Ier, la déclaration de guerre de la France à la Prusse. Cher ami, grâce à votre excellent matériel, nous avons battu Abdelkader en Algérie, les Russes à Sébastopol, les Autrichiens à Solferino. Demain, grâce à lui, nous irons corriger M. Bismarck à Berlin. Le ministre de la guerre l'a encore répété la semaine dernière, nous sommes prêts, il ne manque pas un bouton de guêtre à l'armée française.
Et vous ne redoutez pas leurs généraux, ils sont remarquables.
Et les nôtres, MacMahon, Bazaine, Bourbaki, sous les ordres desquels j'ai eu l'honneur de servir en Algérie.
Les instructions du gouvernement sont claires, il ne reste plus qu'à les exécuter.
On va le déculoter, le Bismarck. À bas le roi de Prusse, vive l'empereur, vive l'armée, à Berlin.
Pierre Milza, bonjour.
Bonjour.
C'était le déclenchement d'une guerre à laquelle vous avez consacré votre dernier livre, La guerre franco-prussienne de 1870. Une guerre oubliée alors qu'elle est à l'origine, je l'ai dit, d'événements historiques considérables. Et des événements énormes, inversement proportionnels, si je puis dire, à la cause de cette guerre qui paraît dérisoire quand on vous lit, puisqu'elle ne concernait directement aucun des deux protagonistes. Ni la Prusse, ni la France, puisqu'il s'agissait en fait d'une succession sur le trône d'Espagne.
Oui, mais qui, malgré tout, concernait beaucoup les deux puissances. La Prusse, parce que nous le savons aujourd'hui de manière assez définitive, je dirais, par les travaux d'historiens allemands, la Prusse voulait effectivement une hégémonie et surtout faire son unité. Faire l'unité de l'Allemagne. Elle a trouvé là un prétexte avec cette affaire espagnole. Pour la France, c'est une affaire capitale. Parce qu'un candidat au Hohenzollern...
Oui, c'est ça. La reine Isabelle d'Espagne était renversée en 1868. On cherchait un candidat au trône d'Espagne, les Espagnols en cherchaient un, et ils ont pensé à un cousin du roi de Prusse Guillaume Ier, Léopold de Hohenzollern.
Alors Bismarck a pensé, car c'est lui en fait qui a monté cette opération, qui pour la France aurait été catastrophique si elle avait réussi. Parce que qu'est-ce que ça voulait dire ? Un État prussien-allemand sur son flanc est, et au sud, une Espagne qui serait une Espagne Hohenzollern. Ça rappelait l'Empire de Charles Quint. Mmh. Donc pour la France, c'était quelque chose quand même d'assez déterminant. Ce n'est pas la cause principale de la guerre. La cause principale de la guerre remonte beaucoup plus loin. D'un côté, un Napoléon III qui veut libérer, qui veut émanciper les nationalités. De l'autre, un Bismarck et un Guillaume qui veulent profiter justement de cette émancipation pour asseoir l'unité allemande.
Oui, mais il y a un Napoléon III dont on a l'impression que lui aussi veut en découdre. Je vous lis ce qui se passe. C'est que Napoléon III ne veut pas d'un Hohenzollern sur le trône d'Espagne. Il obtient satisfaction, l'affaire semble réglée puisque ce Léopold de Hohenzollern renonce au trône, mais Napoléon III insiste, exige que le roi de Prusse lui-même renonce pour son cousin au trône d'Espagne. Il envoie son ambassadeur Benedetti à Ems, une ville d'eau où se trouvait Guillaume Ier. Guillaume Ier, qui en a marre, envoie balader l'ambassadeur et il fait part de ce renvoi à son premier ministre qui est Bismarck. Et Bismarck rédige une dépêche et rend publique une dépêche insultante pour la France. Je le lis. Le roi a refusé de voir l'ambassadeur et lui a fait dire par l'aide de camp de service qu'il n'avait plus rien à lui communiquer. Alors ça, c'est d'un mépris total. C'est ce qui explique aussi, dit-on, en partie, la décision de Napoléon III de déclencher la guerre.
Oui, parce que ça devient une question d'honneur. Pour Napoléon III, il s'agit de sauver l'honneur de la France qui a été insultée, en quelque sorte, qui aurait été insultée par Bismarck. En réalité, il faut ramener ça aux difficultés intérieures, aux conflits intérieurs. Napoléon III est assez conscient quand même du rapport de force entre les deux pays, mais il est poussé par ceux qui...
L'impératrice, notamment.
L'impératrice, oui, et puis le clan de ceux qui veulent rétablir l'Empire autoritaire.
Ce qu'on appelle les Mamelucs.
Qui veulent rétablir l'Empire autoritaire et qui, justement, à travers une guerre, pensent pouvoir réunir les énergies et, en tout cas, ramener au pouvoir les durs du régime.
Et redorer donc aussi le prestige de l'Empire. C'est pourquoi Napoléon III déclare la guerre à la Prusse, persuadé d'ailleurs qu'il la gagnera. Or, dès les premiers jours, dès le mois d'août 1870, les premières batailles de cette guerre sont un désastre pour l'armée française.
Qu'est-ce qui s'est passé, mon Dieu? Qu'est-ce qui s'est passé?
Foute le camp, ma petite. À Bissembourg, à Freuchwiller, on a pris la pâtée. À 5 contre 1, on pouvait rien faire.
Vous n'allez pas nous abandonner?
Il y en a trop. Des Bavarois, des Hessois, des Prussiens. Et puis leur canon croupe, c'est l'enfer. Et le maréchal MacMahon, il en chialait comme un gosse.
Les chasseurs d'Afrique, vous les avez vus?
Pas vus. C'est les cuirassiers qui chargeaient à Mazbronn. On les houblons. Les pauvres. Un vrai carnage.
Ils reculaient nos soldats invincibles. À Réchauffen, la mort fauchait leur nom. Nos ennemis dans les bois invisibles. Comme très loups poursuivaient ces géants. Depuis le jour disputant la bataille, France, ils portaient ton drapeau glorieux. Ils sont tombés. Vaincu par la mitraille et non par ceux qui tremblaient de côté. Voyez là-bas comme un éclair d'acier ces escadrons passés dans la fumée. Ils vont mourir et pour sauver l'armée, donner le sang. Dernier cuirassier, donnez le sang du dernier cuirassier.
Et c'était une chanson de 1871, Les cuirassés de Réchauffen, une des plus célèbres batailles de la guerre de 70, une des dernières charges de cavalerie de l'histoire, vous le rappelez, Pierre Milza, et qui commence cette guerre par une succession de désastres. Comment les expliquer? Vous rappelez quand même que malgré la confiance qu'avait Napoléon III, et notamment son ministre de la guerre, il manque pas un bouton de guêtre, il y avait une disproportion dans les forces entre les Allemands, parce que les Prussiens ne se battent pas seuls, on l'a entendu, il y a des Bavarois, il y a la Saxe aussi se bat du côté prussien, il y a également le Württemberg. C'est d'ailleurs une des raisons, vous le rappelez aussi, de la volonté de Bismarck de la déclencher. C'était le moyen pour lui de réunir l'Allemagne.
Alors, il y a d'abord, je suis pas tout à fait sûr que Napoléon III soit sûr de gagner, hein, qu'il l'affirme. Ça, c'est une autre affaire Parce que 2 ans ou 3 ans avant, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que Napoléon III eut tout à fait conscience du rapport des forces entre les démographies allemandes et françaises. 60 millions d'un côté, 38 de l'autre. Et qu'il y ait une tentative à ce moment-là pour changer complètement la donne dans le service militaire. C'est-à-dire que l'Allemagne avait pratiquement une armée de conscription et la France avait une armée de métiers, mais pas assez nombreuse, bien entendu. Donc il fallait absolument introduire quelque chose qui ressemble à la conscription de la période de la Révolution pour rétablir l'équilibre sur le plan des effectifs. Car vous citiez ces batailles des frontières, on s'est battu à 1-3. Ouais. Hein, donc c'était à peu près inévitable. Alors, autre raison, la médiocrité de notre encadrement. Peut-être pas les généraux en chef, Bazaine et MacMahon ne sont pas de si mauvais tacticiens que ça, mais tout ce qu'il y a de commandement intermédiaire. Pourquoi ? Ces gens-là sont des officiers qui ont fait les campagnes coloniales. Ce sont des meneurs d'hommes, ce sont des hommes courageux. Il y a 16 généraux qui sont tués dans les 2 premiers mois de la guerre, dans le premier mois de la guerre. Donc, ce sont des gens qui sont habitués à des guerres de guérilla, mais pas du tout à la guerre en rase campagne, avec une stratégie, avec l'utilisation de l'artillerie, etc.
Oui, là, c'est important. L'armement. Hein, les canons Krupp allemands.
Voilà, on a autant de canons. C'est un peu comme avec les blindés en 40. On a le même nombre à peu près de canons que les Allemands, seulement les nôtres ont une portée de 4 km, les Allemands de 6 km. Il est clair que dans un duel d'artillerie, et c'est même ce qui va se passer au moment du siège de Paris, on est nécessairement battu. Donc voilà, il y a toutes ces raisons qui s'accumulent et qui font que il y a une disproportion, une disparité entre les forces des deux pays.
Oui, d'autant plus que c'est un des plus tristement célèbres généraux français de cette guerre. Le général Bazaine se fait enfermer dans Metz par l'armée allemande, quand même avec 170 000 hommes. Et c'est justement pour venir à son secours que Napoléon III, qui est lui-même sur le champ de bataille, qui est parti, d'ailleurs la régence est assurée à Paris par sa femme, par l'impératrice Eugénie, Napoléon III se fait enfermer en tentant de rejoindre Bazaine à Sedan. Alors là, c'est vraiment le pire des désastres, notamment parce qu'il a 100 000 hommes, mais voilà que l'empereur lui-même est fait prisonnier par l'armée allemande, Pierre Milza.
Alors l'empereur, il faut en parler. Ce qu'il subsiste de l'empereur. Car cet homme est malade, est très gravement malade. Il a là, ce qu'on appelle à l'époque la maladie de la pierre, c'est un calcul dans la vessie. Il faut le hisser sur son cheval. Il faut lui mettre des couches. Hein, on a donc un personnage qui est complètement au bout du rouleau, qui explique d'ailleurs qu'il n'ait pas pu résister finalement à la coterie, enfin à cette coterie réactionnaire. J'aime pas trop coterie de l'impératrice, parce que l'impératrice, elle dit, moi j'ai eu un message dans ma vie, on m'a dit il faut faire un prince qui sera un jour le successeur de Napoléon III. Si on veut qu'on en arrive là, il faut que ce prince puisse conserver son honneur. Bon, mais Napoléon III est au bout du rouleau. Vous savez, à Sedan, pendant la bataille de Sedan, d'abord voir comment Sedan, c'est Dien-Bien-Phu. C'est une cuvette avec des collines. Et là-dedans, il y a 60 000 hommes ou 80 000 hommes qui sont encerclés. Il sait qu'il va devoir capituler. Alors il cherche la mort. Il fait le tour du champ de bataille, il cherche la mort. Il y a un médecin qui le suit, qui dit qu'il était ce personnage qui attend qu'un obus le fauche. Donc voilà, il y a un empereur qui est complètement au bout du rouleau et ce n'est pas un mince facteur d'explication.
Et qui capitule le 2 septembre. Le lendemain, la nouvelle arrive à Paris le 3 septembre, donc 1870, et provoque le 4 septembre la chute du Second Empire et la proclamation de la République par Gambetta.
Citoyens de Paris, la République est proclamée. Un gouvernement a été nommé par acclamation. Le gouvernement invite les citoyens au calme. Le peuple n'oubliera pas qu'il est en face de l'ennemi. Le gouvernement est avant tout un gouvernement de défense nationale.
Vive les Parisiens ! Vive la Nouvelle République !
Voilà ce qu'il dit, Victor Hugo. La France doit à tous les peuples et à tous les hommes de sauver le monde. Que toutes les communes se lèvent, que toutes les campagnes prennent feu. Que de chaque maison sorte un soldat, que de chaque ville sorte une armée. Les Prussiens sont 800 000 et vous êtes 48 millions. Dressez-vous et soufflez sur eux. En marche ! Lyon, prends ton fusil. Bordeaux, prends ta carabine. Rouen, tire ton épée. Et toi, Marseille, chante ta chanson. On n'a pas de poudre, on n'a pas de munitions, erreur, on en a. Que chacun, riche ou pauvre, ouvrier, laboureur, ramasse tout ce qui ressemble à une arme. Roulez du rocher, Entassez des pavés, prenez les pierres de notre terre sacrée, lapidez l'envahisseur avec les ossements de notre mère, la France. Citoyens, dans les cailloux du chemin, ce que vous leur jetterez à la face, c'est la patrie.
Et c'était Victor Hugo le 17 septembre à Paris. Il y était arrivé après 19 ans d'exil. Il y était arrivé le 5 septembre, acclamé d'ailleurs par les Parisiens. Et au moment d'ailleurs où se mettait en place ce gouvernement provisoire après la proclamation de la République, présidé par le général Trochu, et qui décide de poursuivre la guerre. Alors la guerre va se dérouler sur deux fronts, vous le rappelez, Pierre Milza, et d'abord à Paris, car dès le 19 septembre, ce gouvernement, il est prisonnier dans Paris, assiégé par les Allemands, et ça va durer pendant 4 mois d'un siège extrêmement éprouvant.
Oui, parce qu'on avait eu beau faire des stocks de nourriture, des légumes secs, de quoi faire le pain, ça pouvait convenir pour un siège de 1 mois, 2 mois au maximum. Il a duré 4 mois et demi, et donc il a fallu très rapidement faire avec ce qu'on avait, et d'où évidemment ce qui est resté dans les mémoires collectives d'ailleurs des Français. On a mangé du rat, on a mangé du chat, un certain nombre de restaurants d'ailleurs, on a conservé les menus rôtis de chat, fricassés de, bon.
Même les animaux du zoo de Vincennes qui ont même disparu, les animaux du qui monde. Étaient à la carte des grands restaurants.
Les chevaux. On n'avait plus de cavalerie. Mais au cas où on voulait mener une guerre en dehors des remparts, et on n'avait plus de cavalerie parce qu'on avait mangé les chevaux. Bon, tout ça est un peu folklorique, mais il faut quand même retenir que ça a été une épreuve épouvantable pour les Parisiens et qui n'est pas sans expliquer ce qui va se passer après, c'est-à-dire la Commune à partir du 18 mars.
Alors, il y a la guerre, le siège de Paris, Paris qui tient bon. D'ailleurs, c'est une des rares villes de France qui tiendra bon. Il y en a une autre qui a tenu jusqu'au bout et qui était la ville de Belfort, hein, défendue par Denfert Rochereau, le lion de Belfort, parce que la guerre s'est prolongée aussi en dehors de Paris, car si le gouvernement Trochu est resté dans Paris, en revanche, son ministre de l'Intérieur, Gambetta, il part à Tours et il va lever plusieurs armées. Il y aura 3 armées, une armée de la Loire, une armée du Nord, une armée de l'Est. Il y aura même, vous le rappelez, Pierre Milza, des contingents étrangers, notamment un homme dont vous avez beaucoup parlé dans vos précédents livres, Garibaldi. Que venait faire Garibaldi dans cette aventure?
Vous savez, Garibaldi, il s'est trouvé partout dans le monde sur les champs de bataille de la liberté. Donc, il n'est pas seulement combattu en Italie pour l'émancipation des Italiens, il est combattu en Amérique latine, il est combattu, ou du moins les Garibaldiens avaient combattu dans les Balkans, et tout naturellement, il estime qu'il a une dette envers la France.
Envers la République aussi, parce que c'est après la proclamation
de la
République.
Mais même envers la France, dans la mesure où la France avait aidé en 59, non pas lui, mais le gouvernement italien, les Italiens, à trouver leur indépendance. Donc, il arrive, et là encore, c'est un individu qui est un peu au bout du rouleau, il a des rhumatismes épouvantables, lui aussi faut le hisser sur son cheval. Il arrive là avec plusieurs centaines de combattants, dont certains sont des exilés en France, d'autres viennent d'Amérique ou des États-Unis, d'Amérique latine, pour grossir ses rangs de ce qui va être la Légion garibaldienne, où il n'y a pas que des Italiens, où viennent également, il y a des Polonais, il y a même des Américains. Donc ça va, ces gens-là vont être utilisés pour un front dans la région de Bourgogne, surtout pour des opérations, je dirais, de guérilla.
En tout cas, ces armées de la Loire, de l'Est et du Nord, les volontaires de Garibaldi et d'autres n'ont pas plus de succès donc dans cette guerre qui se prolonge sous la République qu'elle en avait à l'époque de l'Empire.
Frédéric Charles vient de couper en deux l'armée de la Loire. Chanzy est en difficulté à Tours. Bourbaki en difficulté à Nevers. Federbe en difficulté à l'affaire. Garibaldi va se faire battre à Dijon. Gambetta est à Bordeaux. Dans Paris assiégé, Trochu perd la tête pour faire croire qu'il a de la cervelle. Et enfin, depuis une heure, Prussiens et Bavarois campent ici, chez nous, à Rouen.
Bonjour. Alors quoi de nouveau? Vous avez eu un coup dur à la côte Sainte-Catherine?
On a perdu des hommes. Il y a eu 3 fusillés. Vous savez où sont les autres?
Ils ont traversé la Seine pour gagner Ponto de Mer avec le général Briand.
Qu'est-ce que vous me conseillez de faire?
De les rejoindre et poursuivre la lutte. Pas de grandes attaques, des petits coups de main. Harceler, harceler, harceler. Le mot d'ordre est la meilleure tactique.
On n'a plus personne derrière. Quelle est notre position ici? Nous n'avons aucune carte. Et où est l'artillerie?
Hors de combat, mon capitaine. Soutien impossible.
Et les cuirassiers?
En déroute, mon capitaine. Le 96e, les turcos du colonel Souzon, ils sont en déroute.
En retrait!
Alors cette guerre menée avec Gambetta ou derrière Gambetta en province n'a pas plus de succès que quand elle était menée par le Second Empire, par Napoléon III. C'est une guerre nouvelle, vous le rappelez. On l'a évoqué tout à l'heure, par exemple, dernière charge de cavalerie à Reichshofen. Il n'y en a pas eu beaucoup d'autres. Il y en a eu une en 1940 en Pologne, mais il n'y en a pas eu beaucoup d'autres. Rôle de l'artillerie, mais aussi du côté français, on l'a entendu, des francs-tireurs, une guerre de guérilla, une résistance. Hein. C'est la première fois, en France en tout cas, qu'on voit apparaître une guerre de ce type.
Oui, enfin, une résistance et une répression à cette résistance. Songez qu'à un certain moment, vous savez que justement, pour faire entre Paris et Tours, le courrier, pour acheminer le courrier, il y en avait besoin pour des raisons même militaires, utiliser des pigeons voyageurs. Mais les Allemands avaient publié un décret disant que les personnes qui seraient prises à élever des pigeons, et notamment des pigeons voyageurs, seraient immédiatement fusillées. Donc il y a quelque chose qui, toute proportion gardée, nous fait un peu penser au duel résistance-répression. Et notamment, il y a un événement qui est Châteaudun. Châteaudun qui résiste pas seulement d'ailleurs avec l'armée régulière, mais avec les corps francs et avec les civils, à un général prussien, un général allemand, qui trouve cette ville sur son passage. Il va y avoir une, on ne peut pas parler d'oradour sur glane, parce que ça n'aura quand même pas la même sauvagerie, mais une répression tout à fait féroce de la part des Allemands qui ont perdu beaucoup d'hommes dans cette affaire. Donc incontestablement, il y a cela, il y a l'espionnage, il y a les corps francs. Une chose peut-être qu'il faut noter, parce qu'on a parlé de Garibaldi. Moi, j'ai tenu, vous l'avez peut-être remarqué, à mettre en parallèle l'action de Garibaldi et les zouaves pontificaux. Parce que ça m'a paru quand même extraordinaire, le fait que ces gens qui se sont étripés à Mentana 3 ans avant, les défenseurs du pape et les garibaldiens, vont se retrouver sous le drapeau de la République pour se battre pour la République.
Petit détail aussi, vous le mentionnez, c'est que pendant cette guerre, autre conséquence que je n'ai pas évoquée, c'est que les Italiens en ont profité pour s'emparer de Rome et faire de Rome leur capitale. C'est aussi, il y a eu des conséquences considérables dans cette guerre, notamment une autre, qui est tout simplement la proclamation de l'unité allemande. L'Allemagne était divisée depuis des siècles en plusieurs États, et Bismarck profite de cette guerre dans laquelle il s'est battu, la Prusse s'est battue avec des Bavarois, des Wurtembourgeois, des Saxons, pour proclamer l'Empire allemand, et le proclamer où ? Puisqu'elle se trouvait autour de Paris, c'est à Versailles, dans la Galerie des Glaces, que l'Empire allemand a été proclamé. Ça, c'est un événement considérable et humiliant, évidemment, pour la France.
Tout à fait, et qui va poser un précédent, parce qu'ensuite, on va essayer, on aura le wagon de rotonde, et puis le deuxième wagon de rotonde, etc.
Ouais. Et c'est dans la Galerie des Glaces que sera signé le traité de Versailles de 1919. Donc, une des conséquences, une autre des importantes, considérables conséquences de cette guerre, c'est le soulèvement de Paris, assiégé depuis le mois de septembre, lorsque le 18 mars 1871 est connue la commune, la commune de Paris, dès que sont connues les négociations que Thiers a entamées avec les Allemands depuis le mois de janvier.
Les bruits courent que le gouvernement veut nous retirer les canons que nous avons payés.
Nous sommes les élus du comité de la garde nationale.
Écoutez-moi, citoyens. Écoutez-moi. Nous sommes la barrière inexorable élevée contre toute tentative de renversement de la République.
Il y a de légal ce qui est conforme à l'intérêt commun. Nous, cette nuit, le gros tiers se heurtait à la conviction populaire.
Nous, les membres élus du comité central de la garde nationale, désormais élus de la commune par la volonté du peuple de Paris ici présent, remettons au nom du comité central, entre les mains du conseil de la commune, le pouvoir que les événements nous avaient confié.
Vive la commune !
Et c'est le déclenchement de la commune le 18 mars 1871. Non seulement une conséquence de la guerre, vous le rappelez Pierre Milza, vous le rappellerez aussi dans le deuxième volume de ces deux livres consacrés à l'année terrible, puisqu'elle se prolonge jusqu'en 71, mais la commune n'est pas seulement une conséquence, c'est quasiment le dernier épisode très important de cette guerre, car elle n'est pas finie. Thiers est en train de négocier avec les Allemands, qui posent des conditions draconiennes à ce moment-là.
Elles sont draconiennes, elles le sont tellement que dans les derniers jours de la négociation, il y allait tous les jours, il prenait le train de, jusqu'à Versailles. Le dernier
oui,
jour.
Oui, Thiers qui s'installe à Versailles.
Oui. Et il trouve les conditions de Bismarck tellement léonines. Il s'est battu, hein, pied à pied, l'Alsace, une partie de la Lorraine, les 5 milliards, etc., d'indemnités, qu'à un moment donné, c'est Maxime Ducamp qui le raconte, il s'effondre. Thiers s'effondre. Il se met à pleurer devant, il faut voir la scène, hein, le géant d'un mètre 90 et puis le petit bonhomme d'un mètre 52. Et il y a cette scène assez extraordinaire où Bismarck prend Thiers dans ses bras, le pose sur un lit, sur un sofa qui est à côté, et lui dit « Mais vous êtes épuisé, vous êtes trop fatigué. Ah, monsieur Thiers, ah, monsieur Thiers, la France, il n'y avait plus que nous deux qui l'aimions. »
C'est extraordinaire, oui. Et n'empêche que Thiers va accepter justement les conditions. Il faut rappeler qu'il a été, c'est le chef du gouvernement, un gouvernement qui est soutenu par un nouveau parlement, car également en pleine guerre, à la fin de cette guerre, Bismarck voulant négocier avec un gouvernement qui venait d'élections législatives, eh bien les Français, en votant monarchiste, car cette république, au début, elle avait une assemblée majoritairement monarchiste, eh bien, votait surtout pour la paix, ce que ne voulaient pas les Parisiens. C'est en cela, d'ailleurs, que la Commune a été, au fond, un divorce entre Paris et la province. Donc, Thiers qui accepte finalement les conditions de ce traité qui ne sera signé que le 10 mai 1871, juste avant l'écrasement de la Commune, quelques jours plus tard. C'est vraiment considérables les conséquences. Vous avez évoqué par exemple le fait que derrière tout ça, il se profilait non seulement la Commune puisqu'elle s'est déclenchée à la fin, mais même les deux guerres suivantes, Pierre Milza. Car au fond, la perte de l'Alsace-Lorraine, c'est une des causes du déclenchement de la guerre de 14-18.
Tout à fait, il y a cette relation en chaîne et effectivement, à partir d'un certain moment, ce n'est même plus seulement le peuple parisien, c'est la France tout entière qui refuse en quelque sorte ce diktat de Bismarck de l'annexion de l'Alsace-Lorraine. La question d'Alsace-Lorraine va désormais, entre la France et l'Allemagne, être la pierre d'achoppement de tout rapprochement. Bismarck en a eu conscience. À un moment donné, il hésitait même, il essayait d'obtenir de Guillaume un petit peu plus de générosité dans le traité. Il n'a pas réussi. Et effectivement, ça a créé entre la France et l'Allemagne quelque chose d'irréversible.
Et qui ira plus loin, parce que ça déclenche la Première Guerre mondiale,
elle-même
qui déclenche la Seconde. C'est extraordinaire à quel point cette guerre, qui a été considérable par ses conséquences, évidemment, elle a fait moins de victimes que celle de 14-18 ou celle de 39-45, on l'a vraiment oublié.
Mais ce qui me paraît aussi extrêmement important, c'est que de tout cela est né en même temps la Troisième République. Mmh. Le très grand régime qui a été
la plus longue République qui a produit la France.
On élit 400 monarchistes et puis 10 ans après, on va se retrouver avec la République. Pourquoi ? Parce que cette guerre a révélé en même temps de grandes personnalités. Ferry qui sera l'homme de l'école et puis ce Gambetta dont nous avons malheureusement pas eu le temps de parler. Lui aussi, c'était un Italien d'origine. Son papa était épicier à Cahors.
Merci Pierre Milza. Pour en savoir plus sur cette guerre, je recommande la lecture du premier volume de votre livre, L'année terrible, la guerre franco-prussienne, qui vient de paraître aux éditions Perrin. Le deuxième volume, La guerre franco-française, c'est-à-dire la Commune, paraîtra en septembre prochain, également chez Perrin. À lire aussi La guerre contre Paris de Robert Holmes, publié chez Aubier. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants, Boule de Suif de Christian Jacques, édité par René Château Vidéo, Les Alsaciens et les deux Mathildes, un téléfilm de Michel Favard, Champ d'honneur de Jean-Pierre Denis et La Commune de Peter Watkins, disponible en DVD chez Dorian Film. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Éric Morin et Guillaume Lacroux, documentation Emmanuel Fournier, Clarisse Le Gardien et Franck Olivard, une réalisation de Anne Kobilac. Demain, dans notre émission, une histoire des sirènes.